Voilà, bonsoir à tous. La semaine dernière, nous avons proposé une compréhension psychologique de la miséricorde. Plutôt que de voir la miséricorde comme la qualité d'une personne ou un sentiment, on a réfléchi à une définition relationnelle de la miséricorde. Alors, on a vu que la miséricorde comme relation peut être une expérience qu'on peut faire quand on vit un mal, mais que cette expérience du mal n'était pas nécessaire pour la vivre, qu'on pouvait aussi la vivre dans une expérience de vulnérabilité, par exemple en position de petit bébé dans laquelle nous avons tous été. On a aussi réfléchi à partir d'une phrase de Jean-Paul II citée par le cardinal Casper, la limite imposée au mal est la divine miséricorde. On a essayé de voir est-ce que ça a du sens sur le plan psychologique. Est-ce qu'une relation de miséricorde peut rendre plus juste? Alors Bernard nous a aidés au niveau anthropologique à voir quels étaient les différents niveaux du mal, comment on pouvait distinguer, et de même sur le plan du concept de justice, on a introduit une nouvelle catégorie qui est très importante en psychologie, qui est la catégorie de justesse dans les relations. Là aussi, Bernard nous a éclairé au niveau anthropologique en introduisant aussi une différenciation entre les hommes et les femmes dans la manière dont le rapport au surmoi, dont le surmoi se construit, et donc une certaine vision de la justice peut être différente à partir de cette différence sexuée. Pour qu'une relation de miséricorde arrête le mal et rende plus juste, il faut réfléchir à la justesse de la relation. La justesse ne peut pas se définir dans une relation à deux. Une relation n'est juste que si elle est juste par rapport à toutes les autres relations dans lesquelles les protagonistes sont impliqués. Donc on a vu ça sur le plan clinique et on va continuer d'ailleurs à approfondir cette question avec la question du pardon. Donc on va réfléchir au pardon en termes psychologiques et relationnels. Comment est-ce qu'on parle du pardon en psychologie? C'est pas un mot qu'on utilise beaucoup, mais quand même en systémique, il y a quelques systémiciens dont Nagy, dont on a déjà parlé la fois dernière, qui ont parlé du pardon, et aussi Michel Delage, qui est un psychiatre français spécialisé dans les catastrophes. Et donc on parle quand même beaucoup du travail du pardon après la question de la résilience et dans la façon dont on travaille sur le plan psychologique pour se remettre debout après un grave traumatisme. Donc on va voir le pardon comme un travail relationnel intérieur et extérieur. Alors on a vu que les relations de miséricorde ne peuvent pas être réduites à ce travail du pardon, mais le pardon est une relation particulière de miséricorde et sans doute la plus difficile. C'est une relation de miséricorde donnée ou reçue après un mal subi ou un mal commis. Donc il y a là une expérience du mal et pas simplement une expérience de la vulnérabilité. Alors nous allons insister sur la dimension relationnelle du pardon parce que nous avons la conviction que le pardon est impossible à construire seul. Une victime seule face à son agresseur ne peut pas construire une relation de pardon. Il faut un contexte relationnel qui permette le travail du pardon et la résilience. Il faut plusieurs relations. Alors ici, je parle de pardon pour un mal subi qui est grave, avec une dimension d'irréparable. Alors, premier chapitre, les représentations du pardon en psychologie. La plupart des personnes qui viennent en consultation ont conscience du fait qu'un mal subi peut rendre malade et veulent guérir de ce mal. Alors Philippe Cochineau, dans son livre « Que penser de la miséricorde » parle de la première dimension du travail du pardon comme travail de guérison des blessures intérieures. Donc on a tous intérêt à faire ce premier niveau de pardon qui est guérir de ses blessures. Sinon, la souffrance peut devenir une maladie. Et si on ne soigne pas ce mal subi, on risque aussi de le refouler dans l'inconscient. Et là, il peut aussi aussi se transformer, comme on l'a vu la fois dernière, en mal commis et provoquer une contagion du mal. Hein? Donc si on ne prend pas conscience d'un mal qu'on a subi, si on le minimise, il va y avoir un mécanisme psychologique qui s'appelle l'identification à l'agresseur qui risque très fort de reproduire ce mal qu'on a subi. Alors les personnes qui viennent consulter parce qu'elles souffrent de ne pas arriver à pardonner à quelqu'un sont beaucoup plus rares. Ça existe, mais en général, c'est pas cette demande-là qui arrive en consultation. Parce que ça suppose un désir aussi pour l'autre et pour la relation avec l'autre. Hein, c'est pas seulement pour soi, alors qu'on veut guérir, on veut essayer de travailler cette relation à l'autre et voir si on peut guérir cette relation à l'autre. C'est ce que Philippe Cochineau appelle la deuxième dimension du pardon. Pardonner pour l'autre et pour la relation à l'autre. Pourtant, on va le voir dans les exemples cliniques, cette dimension de l'autre et donc de la relation à lui est quasi toujours présente, même si elle n'est pas nommée comme telle dans la clinique. Quand on parle de pardon, c'est important de prendre conscience des représentations du pardon qui nous habitent et qui peuvent nous bloquer si elles ne sont pas justes. Un travail de pardon qui n'est pas dans la justesse de la relation à l'autre et à soi peut rendre malade et briser les relations plutôt que de faire du bien. Alors là, on va faire référence à Jean Monbourquette, qui est psychologue et qui était psychologue et prêtre, et qui a très bien parlé dans son livre « Comment pardonner » des fausses conceptions du pardon. Il a tout un chapitre là-dessus. On va reprendre certaines idées qu'il propose. Et donc ces idées vont nous aider aussi à approfondir cette question d'une relation de miséricorde qui rendrait plus juste à la fois soi-même, l'autre et la relation à l'autre et aux autres. Par contre, à l'inverse, des représentations erronées du pardon ne peuvent pas construire des relations plus justes parce qu'elles ne respectent pas les lois du psychisme. Alors, première chose importante, pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas tourner la page et recommencer. Pardonner est un acte de souvenir, un acte de mémoire, ce n'est pas un acte d'oubli. Et il s'agit de guérir la mémoire, d'arriver à penser à l'offense sans se noyer dans les émotions négatives. Donc il y a une prise de conscience lucide des limites de l'autre et des nôtres. Il y a aussi des limites à mettre à l'autre et à soi-même pour se protéger. Si on oubliait le mal qu'on a subi, on ne construirait pas une relation plus juste à l'autre. Pardonner, ce n'est pas nier l'offense. Alors, nier, c'est encore pire qu'oublier. Nier, c'est refouler. Nier l'offense, c'est nier la partie de soi qui est blessée. Ce n'est pas une relation juste à soi-même, ni à l'autre, de nier ou de minimiser un mal. Et on a vu que si on nie l'offense, si on la refoule, il y a un grand danger de reproduire ce mal. Il devient contagieux. Le travail du pardon, ce n'est pas seulement un travail de la volonté. On peut vouloir pardonner et quand même rester prisonnier de ses émotions négatives. On ne peut pas contrôler les émotions qui nous viennent. On peut contrôler leur expression, parfois, mais on ne peut pas contrôler ce qui émerge. Il faut prendre soin de la blessure qui cause les émotions. Et en général, c'est la compassion d'un autre à qui on peut se confier qui permet d'apaiser les émotions et qui nous rend alors plus justes. Mais donc là, voilà, on a besoin d'une autre relation. Pardonner ne peut se commander ni à soi-même ni à quelqu'un d'autre. C'est un acte libre et gratuit. On ne peut pas obliger un enfant à pardonner. Ça ne construit pas plus de justice ni de justesse pour lui. Pardonner ne veut pas dire se réconcilier. Ça ne veut pas dire se retrouver comme avant l'offense. On peut pardonner sans se réconcilier. Et parfois, il faut se séparer pour pouvoir pardonner. Et de toute façon, si on choisit de se réconcilier, ça ne veut pas dire retrouver la relation d'avant le conflit. fois, on peut découvrir une nouvelle relation possible, et même meilleure qu'avant, mais en tout cas, ça ne sera pas comme avant. Hein? L'histoire peut continuer parfois, mais cette histoire a aussi, comprend aussi l'histoire de l'offense. Bon, alors ça, c'est très important parce que, par exemple, dans les problématiques d'abus sexuels dans les familles, il faut qu'il y ait séparation et donc arrêt du mal aussi pour qu'un travail de pardon puisse commencer et de guérison des blessures. Il faut que le mal cesse et il faut que la relation d'emprise cesse. Pardonner ne veut pas dire renoncer à ses droits, renoncer à la justice. Un pardon qui ne combattrait pas l'injustice serait dévastateur. Pardonner, ce n'est pas excuser l'autre, ce n'est pas déresponsabiliser l'offenseur. Alors on voit parfois des victimes qui prennent la faute sur elles pour essayer de contrôler la situation, pour essayer de se dire « oui, mais enfin, bon, je l'ai un peu provoqué, etc. » Mais là, de nouveau, on prend l'offense sur soi et ce n'est pas juste dans la relation à soi-même. Comprendre l'offenseur, ça ne veut pas dire minimiser sa faute ou prendre sur soi la faute. Alors, pardonner n'est pas une démonstration de supériorité morale. Alors ça, c'est très important, notamment dans la relation parent-enfant. Un enfant ou un adolescent qui demande pardon, c'est sûr que ce n'est pas le moment de lui faire la leçon et de l'humilier. Hein, donc ça, c'est très très important. Parce que sinon, pardonner peut être une façon de rabaisser l'autre, de l'humilier. Et donc, bien sûr, on n'est pas dans une relation juste. C'est important aussi que les parents puissent demander pardon aux enfants s'ils estiment que leur colère a pris le dessus, qu'ils se sont comportés d'une façon excessive. Pardonner, ce n'est pas se décharger sur Dieu du travail de pardon. C'est un travail de Dieu et de l'homme ensemble. Alors, on peut voir au travers de tout ce que mon Bourquette nous dit dans ce chapitre que les fausses conceptions du pardon peuvent construire des relations qui ne sont pas justes, au moins à soi-même et souvent à l'autre aussi. Et donc un pardon qui n'est pas juste ne permet pas de faire une expérience de miséricorde pour chacune des personnes impliquées dans la relation. Deuxième chapitre, le travail relationnel du pardon en thérapie familiale. Alors là, on va voir un exemple clinique où les différents niveaux anthropologiques du mal sont tout à fait intriqués. On va voir un exemple clinique qui est assez classique, où le mal subi, le mal commis, la souffrance, la maladie, tout ça est enchevêtré. Et donc, on va voir aussi comment ça complexifie ce travail du pardon qui est alors à faire par chacun des membres de la famille et souvent sur plusieurs générations. On va parler d'un petit garçon, Jérémy, qui a 7 ans et qui vient avec ses parents parce qu'il souffre d'encoprésie. Alors l'encoprésie, c'est un problème psychologique assez fréquent. Donc l'enfant souille ses culottes parce qu'il se retient trop d'aller à selle, et donc ça déborde. Souvent les parents pensent qu'il ne sait pas se retenir, mais en fait l'enfant se retient trop. Alors Jérémy a une relation difficile avec sa mère, et la maman a du mal à contrôler ses émotions. Les émotions débordent, elles explosent vite. Les parents de la maman étaient alcooliques et violents. Donc, dans son enfance, elle n'a pas reçu de contenant émotionnel. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne dans la relation pour contenir ses émotions à elle. Elle devait se retenir. Et du coup, maintenant, ça explose. Le papa a du mal à supporter les crises de la maman. Enfant, il avait dû apprendre à retenir ses émotions. On ne pouvait rien dire à papa, disait maman, car papa sinon allait se mettre en colère. Et voilà que sa femme se met en colère, comme son père. Et les colères de madame terrorisent Jérémy. Alors le papa s'identifie à son enfant en retrouvant sa souffrance de petit garçon. Et il en veut à sa femme. Il y a un cercle vicieux relationnel qui commence à renforcer les symptômes de chacun. Jérémy, depuis tout petit, est nerveux et bouge beaucoup. Ça énerve maman. Mais au plus maman s'énerve, au plus Jérémy fait la sourde oreille. Au plus Jérémy fait la sourde oreille, au plus maman crie. Au plus maman crie, au plus papa crie sur maman. Ce qui angoisse Jérémy, qui essaye alors de retenir ses émotions. même son corps se retient et se crispe, et alors il développe ce symptôme de l'encoprésie. Alors, comme il souille ses culottes, la maman vérifie les culottes. Mais cette intrusion au niveau du corps de l'enfant, d'un enfant de 7 ans provoque chez Jérémy des angoisses, qu'on appelle les angoisses édipiennes. Donc l'enfant est angoissé d'être trop proche de sa mère, et en plus il est angoissé d'arriver à séparer le couple de ses parents qui se disputent à cause de lui, pense-t-il. Alors son angoisse prend la forme d'un symptôme. Il a peur des monstres marins qui pourraient surgir de la toilette et le manger, donc il ne va plus à la toilette, il se retient parce qu'il a en plus peur de la toilette, etc. Donc dans la famille, chacun souffre et chacun a son symptôme, soit la colère qui déborde, soit l'encoprésie, les selles qui débordent. On a commencé un travail en famille pour essayer d'identifier les blessures et les difficultés de chacun. Il fallait aussi prendre conscience des cercles vicieux relationnels, comment les problèmes s'enchaînent les uns aux autres. Il fallait aussi prendre conscience des difficultés transgénérationnelles. Donc les parents n'avaient pas reçu les compétences nécessaires de leurs propres parents pour pouvoir aider leurs enfants, en tout cas sur le plan émotionnel. Et il y avait tout un travail de pardon à faire par rapport à des blessures qu'ils revivaient dans les difficultés actuelles qu'ils avaient vécues comme enfants avec leurs parents. Par la suite, j'ai pu faire un travail individuel avec Jérémy et une guidance des parents par ailleurs. Jérémy avait besoin d'apprendre à exprimer ses émotions qu'il retenait et qui étaient bloquées. Il avait énormément de colère retenue en lui et il fallait qu'il apprenne à exprimer ses émotions d'une façon qui ne détruisait pas les relations, d'une façon non dangereuse pour les relations. Alors là, on a un outil en pédopsychiatrie qu'on appelle le jeu symbolique, où par le jeu, l'enfant exprime de façon métaphorique ce qu'il vit. Et donc, comme Jérémy spontanément parlait des monstres marins qui risquaient d'arriver par les toilettes, il pouvait les construire en plasticine, jouer avec, essayer de développer des histoires à partir de ça. Et donc, dans ces histoires, les enfants projettent leurs angoisses et leurs désirs et peuvent les travailler avec l'aide du thérapeute. Et les histoires et les images qu'ils inventent sont des métaphores de ce qu'ils vivent dans la réalité des relations. Alors très vite, Jérémy va passer du jeu symbolique avec les monstres marins au jeu symbolique à partir des histoires bibliques. Donc il va commencer à me parler du dieu de Moïse, parce qu'il a vu le film du prince d'Égypte, donc qui est l'histoire de Moïse, et le dieu de Moïse, dans le film du prince d'Égypte, le terrifiait parce qu'il avait une façon de prendre le pouvoir qui ressemblait très fort à celle du pharaon. Sans pitié ni pardon pour les enfants, pour les victimes innocentes qui étaient par exemple les bébés égyptiens morts au moment de la Pâque juive. Et Jérémy ne s'identifiait pas du tout à Moïse, il essayait d'être un pharaon plus juste. Donc il jouait pharaon et il essayait de réfléchir à comment on pouvait jouer pharaon sans s'attirer la colère de ce dieu terrifiant. Alors plus tard, il va prendre une autre histoire qui est l'histoire de Joseph, celui qui pardonne à ses frères, donc dans l'Ancien Testament aussi. Alors Jérémy suivait le cours de religion, mais ses parents n'étaient pas croyants. Mais malgré tout, il utilisait ce matériel symbolique qu'il recevait à l'école, à la fois pour sortir de sa colère, pour essayer de voir comment on se débrouille dans les relations, comment on peut amadouer ce Dieu terrifiant. Mais Dieu restera pour lui ce Dieu de justice vengeur qu'il faut maintenir à distance en essayant de ne pas le provoquer. Et sans doute, c'est aussi un peu ça que Jérémy aura appris à faire dans la relation avec ses parents. Comment ne pas les provoquer pour éviter les colères. Alors, l'histoire de Jérémy nous montre la complexité relationnelle d'un travail de pardon en consultation de thérapie familiale. Mais on voit que chacun a sa part de travail à faire pour que les relations deviennent plus justes et plus miséricordieuses. Il y a aussi un travail à faire par rapport à soi-même dans le travail des émotions, qui sont toujours là quand il y a eu du mal. Et on voit que pour ce travail sur les émotions, on a besoin d'autres relations dans lesquelles elles peuvent s'exprimer. On a besoin de la créativité aussi, de ce jeu symbolique. qui est peut-être plus facile chez l'enfant que chez l'adulte. Mais donc l'histoire de Jérémie peut déjà nous aider à entrer dans la complexité et de voir pourquoi le pardon ne peut pas s'envisager dans un travail seulement solitaire, un travail seulement intérieur, et comment un travail relationnel est vraiment nécessaire dans toute sa complexité, en incluant aussi toutes les dimensions transgénérationnelles. Alors, troisième et dernier chapitre, avant de passer la parole à Bernard. Pardon et réconciliation. Grâce à une histoire, l'histoire de Laetitia, on va voir comment une relation de miséricorde et de compassion, au départ par rapport à un bébé, peut avoir des conséquences pacifiantes pour d'autres relations et amener à un travail de pardon. Et même ici, on va pouvoir parler de réconciliation. Alors, Laetitia a 30 ans, mais je l'ai connue à l'âge de 16 ans, lorsqu'elle a fait une dépression très grave avec une tentative de suicide. Elle a dû être hospitalisée pendant plusieurs mois et je l'ai ensuite suivie en psychothérapie pendant 3 ans. Actuellement, elle est mariée, elle travaille et elle vient me revoir parce qu'elle est enceinte de 3 mois et qu'elle risque de perdre son bébé. Elle est très angoissée et elle a peur de craquer, elle ne dort plus. Ça fait plusieurs années que le couple essaye d'avoir un enfant et elle me dit qu'elle a peur de refaire une dépression si elle perd cet enfant. Mais déjà, elle va très mal. Et elle me dit qu'elle essaye, pour tenir le coup, de se détacher de ce bébé, de se dire que ce n'est pas encore un enfant, et elle pense qu'ainsi, si elle le perd, elle souffrira moins. Alors je lui dis que la manière dont elle essaye de se protéger ne fonctionne pas et que ses angoisses démontrent qu'il y a peut-être un autre chemin à trouver. Alors je vais vous dire ce que je lui dis, mais il faut faire attention parce que ce que je lui ai dit à elle était juste pour elle à partir de tout le travail qu'on avait déjà fait ensemble, mais ce que j'ai fait est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux parce que je vais m'attaquer à ce qu'on appelle une défense contre l'angoisse. Donc en essayant de se détacher de ce bébé, elle se défend de son angoisse pour essayer de ne pas sombrer en dépression. Et donc je vais lui dire, mais vous savez, ce bébé, vous y êtes déjà attaché, depuis même avant qu'il ne soit conçu. Vous ne pouvez pas faire comme s'il n'existait pas, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas faire comme si vous ne l'aimiez pas déjà. Cela provoque des angoisses parce que vous savez bien que vous l'aimez déjà. C'est très dur de perdre un bébé qu'on aime. Mais le fait d'avoir fait tout ce qu'on a pu pour montrer son amour à quelqu'un peut parfois aider à ne pas s'effondrer si on le perd. Est-ce que vous pourriez faire sentir à votre bébé à quel point vous l'aimez ? Il est très fragile, il est très malade, mais il a besoin de sa maman. Si vous voulez, on peut essayer ensemble. Alors ce que je renvoie à Laetitia de son désir de couper la relation pour se protéger, plutôt que d'oser une relation de compassion pour ce bébé, je peux le faire parce que cela renvoie au travail qu'on a déjà fait ensemble pendant 3 ans. Je sais qu'elle a déjà pris conscience de cette fragilité en elle et je ne fais que lui rappeler ce qu'elle a déjà découvert d'elle-même et de son désir de couper les relations pour ne pas souffrir, dès qu'il y a du mal dedans, ou qu'il y a un mal qui pourrait arriver. Bon, si je ne pouvais pas m'appuyer sur ce travail-là, ce que je dis pourrait être vécu comme extrêmement violent et provoquer un effondrement. Alors, on fait ce travail avec Laetitia, elle pleure beaucoup, mais on essaye de trouver des mots pour ce bébé, et elle arrive à exprimer tout l'amour et tout le désir de vie qu'elle ressent pour lui. Petit à petit, elle s'apaise. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un mois après, elle revient en pleine forme. Son bébé est toujours bien vivant et elle me dit « Je me suis sentie mieux et en plus, il m'est arrivé quelque chose de tout à fait étrange que je voudrais vous raconter. » La nuit qui a suivi l'entretien que je viens de vous raconter, j'ai rêvé que mon ami Pascal était à Zaventem lors des attentats. Je l'appelais au téléphone, elle était blessée. J'allais la voir et je me réconciliais avec elle. Alors, il faut savoir que Laetitia ne voyait plus son ami Pascal depuis plusieurs années, parce que son ami avait raconté au travail que Laetitia avait été en hôpital psychiatrique. Donc, elle travaillait dans le même lieu qu'elle. Laetitia poursuit. Alors, le lendemain, en me réveillant, j'ai pris mon téléphone et j'ai raconté à mon ami mon rêve. Donc, elle ne lui avait plus parlé depuis des années. Et je lui ai dit que je voulais la revoir et lui pardonner. Elle était très touchée et on va se revoir bientôt. Vous savez, je pense que c'est grâce à mon bébé que j'ai pu rêver ça. Quand on devient maman, on doit apprendre à pardonner. D'ailleurs, ça va mieux aussi avec mes parents. Mais ça, c'est grâce à mon mari. Il m'a beaucoup aidée. Je crois qu'ils seront de bons grands-parents. Je crois que je veux tourner la page et commencer une nouvelle histoire avec eux. Et en plus, je m'entends mieux aussi avec ma belle-mère. Alors bon, je ne vous raconte pas toute l'histoire avec la belle-mère. Mais l'histoire de Laetitia n'est pas une histoire exceptionnelle. Une relation blessée que nous choisissons d'investir avec tout notre être et avec l'appui d'autres relations peut devenir une source d'apaisement pour d'autres relations. Alors en donnant de la compassion à ce petit bébé qui n'était pas encore né, Laetitia a ouvert en elle une brèche. Elle a osé s'attacher à ce bébé qu'elle risquait de perdre. Elle a osé devenir vulnérable. Et dans le même mouvement, elle a voulu se réattacher à tous ceux qu'elle avait aimés mais dont elle s'était coupée à cause d'un mal. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Bernard.
Par rapport au schéma de la fois passée, donc le mal, vous vous souvenez, au niveau psychique, ce sont des dysfonctionnements, des angoisses. Au niveau rationnel, ce sont plutôt des erreurs, des mensonges, des fautes morales. Et puis, au niveau spirituel, ce sont des péchés. Alors, je crois que Dominique a bien développé la question du mal au niveau psychique, en montrant bien sûr qu'il y a aussi une implication de la volonté, bien sûr, hein, il y a peut-être des fautes morales aussi, mais elle prend surtout les questions au niveau psychique, donc des dysfonctionnements, des angoisses et tout ça. Et bien sûr, le théologien, le père spirituel, ne rejette pas du tout ce genre de réflexion, mais il doit certainement, lui aussi, s'attaquer à ce problème du mal, peut-être davantage sur le mal qui est commis volontairement, comme une faute morale, ou comme un mensonge, ou bien comme un péché. Il doit s'occuper de cela, pas seulement des dysfonctionnements, il doit tenir compte de tout ce que le psychologue dit, mais il y a quand même aussi, parfois, souvent même, hein, le mal commis volontairement, consciemment. Alors on se demande parfois, comment ça se fait que j'ai fait ce mal? Oui, peut-être, mais enfin, on l'a quand même fait. Et donc je voudrais examiner cet acte pécamineux, si on veut, et voir comment il a aussi une influence sur le psychisme. Disons, l'influence peut venir d'en bas vers en haut, je dirais, mais aussi d'en haut vers en bas. Un péché peut détruire, si on veut, quelque chose de l'intégrité psychologique d'une personne. Un acte mauvais que l'on fait peut provoquer une souffrance en nous-mêmes, qui attaque le psychisme. Et peut finir par détruire la personne si on ne prend pas garde. Le pécheur se détruit lui-même, si on veut, mais c'est déjà vrai au niveau psychologique. Hein? Ce travail de destruction de soi-même par le péché, si on veut, commence par entamer l'image qu'on a de soi, par la honte. Chez une personne normalement constituée, on a quand même un certain idéal de soi, une certaine image de soi. Hein? Mais si on fait le mal, ben on n'est pas fidèle à cette image de soi et donc on détruit cette image de soi. En tout cas, on est tout à coup étonné qu'on l'a cassée à un moment donné. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si cette image de soi est vraiment blessée, si la honte est grande, elle peut finir par nous paralyser, nous détruire. Donc chacun possède une certaine image de soi, un certain idéal de soi. Lorsque tout à coup, pour des raisons que nous ne pouvons pas examiner ici, le sujet commet un mal. L'image qu'il reçoit de lui-même entre en conflit avec son idéal. Lorsque l'écart est très fort entre les deux, l'idéal et l'acte commis, le sujet subit un choc. Il se déstabilise. Un criminel qui tue quelqu'un, je dirais, bon, il a fait un acte grave vis-à-vis de l'autre personne, mais c'est un traumatisme pour lui-même aussi. Pour lui-même aussi. Hein? Il est devenu un autre homme. Comment ça se fait? Il ne sait plus très bien qui il est. Il s'inquiète de celui qu'il est devenu. Il en conçoit peut-être une terrible déception, un auto-mépris. Il subit en fait une blessure narcissique. Un traumatisme, une destruction narcissique. Son moi, avec son idéal du moi, son image du moi, eh bien commence à se fissurer. Alors comment doit-il réagir? Et cela arrive encore plus souvent chez des personnes qui ont un idéal élevé, très élevé. Comme par exemple, évidemment, des chrétiens ou des religieux. Lorsque ce mal commis est vraiment volontaire, quoique peut-être pas entièrement voulu, on se peut se trouver des circonstances atténuantes, mais enfin, on se sent quand même attaqué au plus intime, dans sa liberté, dans son image de soi. On dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Par exemple, on devient un meurtrier pendant la guerre, ou pendant un génocide. On a commis un délit sexuel, comme sans le vouloir. On a manqué fortement à son vœu de chasteté, poussé peut-être par les circonstances, mais quand même. Ou on a commis un avortement, on ne parvient pas à s'en remettre. On est forcé à travailler dans un camp de concentration, à faire des choses horribles qu'on désapprouve, mais auxquelles on ne parvient plus à échapper dans la mémoire. Donc là, il y a des choses qu'on vous force à faire, il y a aussi des choses que vous faites volontairement, vous adhérez. Cette image de soi que l'on a cassée est d'autant plus difficile à réparer que, bien sûr, on n'ose en parler à personne. Personne ne va parler des crimes qu'on a faits pendant la guerre, ou d'un avortement, ou d'un abus sexuel dont on est responsable, etc. On n'ose en parler à personne, donc on s'isole. Or, justement, comme l'a expliqué Dominique, comme je vais encore le redire plusieurs fois, notamment à travers la confession par exemple, seul la relation et le pardon dans la relation et dans le tissu relationnel peuvent restaurer l'intégrité de la personne. Si je ne dis rien à personne, je risque bien d'entrer dans une espèce de dégringolade, de descente aux enfers, où l'on risque de faire toujours pire peut-être, entraîné par cette propre image de soi détruite par la dépression, par le désespoir. Le mal que l'on cache en soi nous mine, nous empêche de faire le bien qu'auparavant on faisait avec spontanéité, facilité, semble-t-il. Maintenant, on est comme incapable de croire à sa propre bonté. Alors je prends un exemple. Un prêtre vit sa vie de célibat consacré, de continence, de chasteté, de manière tout à fait honnête, pendant toute sa vie active. Arrivé à la retraite, il se laisse comme fasciné par la formule « Et il ne faut quand même pas mourir idiot. Si on n'a pas fait l'amour, on ne connaît pas la vie. » Voilà, cette formule est dans sa tête, et il croise sur son chemin une femme très sympathique qui le confirme dans cette idée, et lui propose d'essayer avec lui. Ce qu'il finit par faire en croyant, souvenez-vous des quatre niveaux anthropologiques, en croyant qu'il s'agit là d'une expérience purement ponctuelle, passagère, physique, corporelle, qui n'aura donc aucune conséquence au niveau physique, sensoriel, seulement au niveau physique et sensoriel, mais pas au niveau psychique. Et après avoir vécu cela quelque temps, il entre dans une violente crise de remords, qui le déstructure psychologiquement de fond en comble. Il tombe dans une profonde dépression. Sa vie n'a plus de sens. Dire la messe, quel sens est-ce que ça a? Il a dit la messe tous les jours pieusement et c'était extraordinaire. Maintenant, dire la messe, ça n'a plus de sens. Confesser, comment est-ce que je vais confesser? même visiter les malades, faire les actes de charité les plus ordinaires, je dirais, de la vie d'un prêtre, lire son bréviaire, tout semble absurde par rapport à ce qui a été vécu. Voilà, cette personne s'est déstructurée, tout à coup de fond en comble et doit consulter un psychothérapeute pour se reconstruire. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi un chemin spirituel à faire avec son père spirituel, etc. Mais il faut aussi une reconstruction psychologique. Après certaines conduites de péché, il peut y avoir un écroulement psychique. Reconstruire une justesse à partir du psychisme, travailler justement ces remords qui viennent peut-être de loin, qui sont témoins de refoulement, je ne sais pas quoi. Entrer dans le repentir, dans une réflexion aussi intellectuelle, je dirais, sur ce qu'on a fait, sur les lois, sur la vérité. Entrer, si possible, dans la contrition. Tout cela, c'est un chemin à faire, comme en sens inverse, comme remonter de cette descente aux enfers. Souvent, on reste calé au début du chemin et on se juge comme incapable de faire tout ça. Mais se juger de manière ainsi méprisante, finalement destructive, on le prend parfois pour de l'humilité ou pour Dieu sait quoi, mais non, ce n'est peut-être pas tout à fait la miséricorde que l'on doit avoir vis-à-vis de soi-même. Non pas une miséricorde qui dirait « oui, ce qui est fait n'est pas grave hein, », mais une miséricorde qui dit « oui, le chemin est quand même encore possible pour remonter la pente ». Cette destruction de l'image de soi aussi ne peut se reconstruire que s'il y a un milieu, une communauté de miséricorde. Parce que justement, cette personne eh bien, aura tendance à s'isoler, aura tendance à dire « la messe c'est absurde », visiter les malades, c'est absurde, vivre en communauté, c'est absurde. Donc, parfois, c'est souvent, même les personnes qui sont prises avec ce genre de problème s'isolent, se mettent un peu hors des normes habituelles, hors des normes communautaires, etc. Il faut vivre la miséricorde dans un tissu de relations. Pendant un an, on a parlé de la miséricorde. Bon, on en a parlé, reparlé, reparlé dans toutes les communautés, dans les JMJ, on a chanté ça dans toutes les langues. Eh bien, c'est nécessaire pour que, petit à petit, on se dise, ben, finalement, cette miséricorde, tout le monde en parle, ben, parlons-en et entrons dans ces relations de miséricorde et vivons-les concrètement. Mais peut-être que ça ne se fait pas non plus le premier mois ou le deuxième mois. Il faut bien une année de miséricorde, dirais-je, hein, pour entrer dans certaines relations de miséricorde au niveau de certaines communautés, à force d'en parler. Moi, en tout cas, j'ai vécu ça au JMJ. Hein. J'ai vraiment eu l'impression que eh bien, les gens avaient vécu ça pendant des mois et là-bas, eh bien, pouvaient réaliser quelque chose entre eux, peut-être dans une communauté qui n'était pas extrêmement quotidienne ou proche, mais avec des gens qui leur ressemblaient, etc. Voilà. Alors, je voudrais développer trois types de culpabilité en reprenant un peu le schéma anthropologique. Hein. Quelles sont les réactions au mal commis au niveau corporel, psychique, rationnel, spirituel, commis ou parfois subi hein? Eh bien, au niveau corporel, ben, lorsque vous êtes agressé par quelque chose, vous êtes irrité, vous êtes dans un malaise. Eh bien, au niveau psychique, c'est le remords. Au niveau plus rationnel, c'est le repentir. Et au niveau vraiment chrétien, religieux, c'est la contrition. Alors, je vais essayer de différencier ces trois niveaux, hein. Le remords, le repentir moral et la contrition. Je crois que ça correspond assez bien aux mots même, hein, qui sont dits là. Mais bien sûr, je vais préciser et charger ces mots en fonction des trois niveaux anthropologiques dont je vais vous parler. Le remords, c'est quoi? Le remords, qui se trouve au niveau psychique, souvent, eh bien, c'est une bagarre avec son inconscient, son surmoi, son idéal du moi, etc. Dans le remords, c'est surtout la culpabilité psychologique qui joue. Le moi n'y prend pas distance par rapport à des mécanismes inconscients et à leurs contradictions internes, parce que l'inconscient est très actif, mais il est aussi assez contradictoire. Hein? Ah ben oui, il y a des choses contradictoires dans l'inconscient. Il y a des pulsions, mais il y a aussi des idéaux à l'intérieur même de l'inconscient. Ben, il faut réconcilier ça. Donc voilà, il y a des mécanismes inconscients qui fonctionnent et on en est un peu la victime dans le remords. Hein. C'est un sentiment passif. On est victime de ces remords et ces remords nous tournent vers le passé. On ressasse avec une certaine douleur cuisante eh bien, le mal qu'on a fait. Le remords n'est pas encore tout à fait une réalité morale. C'est un malaise, un psychologique. On est rongé. Par le remords, on ne prend pas encore tout à fait distance par rapport à ses actes mauvais. On reste identifié à sa faute. Moi et ce que j'ai fait, c'est la même chose. On ne différencie pas. Le remords, c'est la faute elle-même, non résolue, qui détruit le sujet. Dans une répétition assez obsessionnelle des choses. Et alors, on se met à dysfonctionner à différents niveaux. Parfois, un remords à propos d'une chose ici, me fait dysfonctionner là-bas, dans d'autres domaines. Des phénomènes d'obsession, de répétition, des conduites autopunitives, des dépressions, des mélancolies. Et je situerai ici, je le dis en passant, beaucoup de phénomènes qu'on appelle des phénomènes de possession, des phénomènes diaboliques, etc. Où on voit que certains sujets sont chargés d'une culpabilité inconsciente, très, très profonde, mêlée à de la mélancolie, etc. Et puis alors, il y a des phénomènes de projection et d'identification au mal pur, au mal en soi, etc. Le repentir moral, c'est tout autre chose que le remords. C'est une étape qui, sans doute, peut se construire sur le remords, parce que le remords, il ne faut pas nécessairement l'éliminer, il faut le travailler. Il faut le travailler. Le remords est quand même un bon signal que quelque chose n'a pas marché. Le psychisme lui-même nous dit « Eh là, ça ne va pas ». Comme le corps, par les irritations, etc., et par les transpirations, nous dit « il y a quelque chose qui ne marche pas ». Le remords nous dit au niveau psychique « quelque chose ne marche pas ». Le repentir, pourtant, se construit à travers la raison. La raison théorique et pratique, la réflexion, mais aussi la volonté. Le repentir est tout différent, il est davantage volontaire, on prend en main les choses, on n'est plus actif. On se dit, qu'est-ce que j'ai fait Je me mets devant ce que j'ai fait. Et je me juge coupable de ceci, de cela. Et je me constitue responsable de ce que j'ai fait. Je reconnais, j'assume. C'est moi qui ai fait ça, oui. On reconnaît clairement sa faute. On la désigne, on la nomme comme étant la source de l'angoisse de la culpabilité. C'est à cause de ça que je suis angoissé. Que je dysfonctionne. C'est à cause de ça qui est peut-être caché quelque part. On s'arrache dès lors à l'identité « je suis ma faute » pour dire « non, je ne suis pas ma faute. Ma faute est là et moi je suis ici et maintenant je dois traiter cette faute. Je dois l'assumer, je dois la situer. Comment vais-je faire ?» Dans le repentir, on décide de prendre distance mais aussi de changer. D'intégrer ce fait passé mauvais dans un projet d'avenir pour lequel on se mobilise pour devenir meilleur. Et on réfléchit avec son intelligence pour voir exactement ce qu'on a fait. On essaie de sortir du mensonge et on décide de faire le bien, d'accepter éventuellement la sanction, de chercher une réparation. On passe à quelque chose de plus rationnel. S'il y a une sanction à encaisser, on accepte. Et s'il y a une expiation, comme une peine de prison, on accepte. Ou bien s'il y a une réparation, on s'en réjouit. Plutôt que d'essayer d'y échapper, on dit non, c'est ça qui va me remettre sur pied. Et on est prêt, après l'aveu à soi-même, à passer peut-être à l'aveu à l'autre. À l'autre, à qui celui qu'on a blessé, ou le prêtre dans la confession, le juge, qu'est-ce que je sais, on est d'accord de passer à l'aveu. L'aveu, c'est évidemment une prise en main personnelle de ce qui a été fait. Et pour cela, il faut sans doute être assez clairvoyant et libre pour mettre fin, et ça me semble fort important, pour mettre fin aux mécanismes de défense habituels. Nous avons tous des mécanismes de défense contre l'angoisse, notamment contre l'angoisse de culpabilité, Quels sont ces mécanismes? Eh bien voilà, je les ai un peu énumérés là rapidement. La minimisation. Ouais, c'est quand même pas si grave, tout le monde le fait, etc. La minimisation. La compensation. Ben, je n'y pense pas, je vais boire un verre, puis voilà, j'oublie, etc. Bon. La projection. Ah ben, c'est pas tout à fait moi, c'est même l'autre, c'est même tout à fait l'autre. Et donc, plus je me sens coupable, plus c'est l'autre, finalement, que j'accuse, quoi. Hein, que j'accuse de 36 choses, en rapport ou non avec ce que j'ai fait. L'abdication. J'abdique ma volonté et je la remets à un autre. Mon père spirituel, le gourou de ma secte, ou je ne sais pas quoi, je dis, bon, moi, je ne m'en sors plus, ils me disent ce que je fais, je le fais. Hein. J'abdique. Ou bien, la rationalisation. Ah oui, là, on est très costaud, hein, pour rationaliser, pour expliquer les théories. Freud nous aide beaucoup, là, d'ailleurs. Hein, on rationalise, voilà, on explique pourquoi on a fait ça. Et d'ailleurs, on l'a fait parce que, finalement, il fallait le faire, quoi. C'était normal, etc. Bon. Un peu inéluctable. Rationalisation. Tous ces mécanismes nous empêchent de passer à l'aveu. De mettre une distance entre ce que nous avons fait et nous-mêmes, pas pour nous en débarrasser, mais au contraire pour l'assumer en première personne. Voilà, et bien la contrition, c'est encore plus que ça. La contrition suppose vraiment l'amour de Dieu et du prochain, suppose la grâce. La vraie contrition, c'est la conscience de la fidélité de Dieu dans le mal que j'ai fait, de la fidélité de l'autre, de mon frère, dans le mal que j'ai fait. C'est prendre conscience non seulement du mal que j'ai fait, mais aussi du bien que l'autre continue à faire, à me faire. Peut-être que nous ne dépasserons jamais tout à fait une certaine culpabilité, mais la contrition quand même est un pincement de cœur qui nous fait entrer dans l'amour. On ne désire plus la réparation pour mettre les balances à niveau, hein, mais parce qu'on aime, on veut faire du bien. Au lieu de faire le mal qu'on a fait, désormais on désire faire le bien. On désire faire le bien. Pas seulement pour réparer aussi, mais pas seulement parce qu'on se sent attiré vers celui qui a continué à être bon pendant que j'étais mauvais. Et on sent une espérance. Et une espérance qui est aussi une exigence, bien sûr, mais une exigence qui ne nous paraît pas comme une exigence pesante et déprimante, mais au contraire comme une exigence qui nous élève, qui nous allège. On se sent en reconstruction permanente dans cette relation à Dieu qui est restaurée, dans cette relation au prochain. On a pris conscience, par empathie, du mal qu'on a fait à l'autre. C'est pas seulement « oui, je lui ai fait du mal, eh bien je lui demande pardon, etc. » mais on vit le mal qu'on lui a fait, on le vit en soi. Et on est humble devant la personne qu'on a blessée. Et on veut lui faire du bien. En passant par cet aveu, qui est peut-être plus de l'ordre du repentir, mais désormais en désirant faire du bien à celui qu'on a blessé, si c'est possible. Voilà, c'est beaucoup plus positif, c'est tourner vers l'avenir. Le repentir peut-être analyse le présent, le remords c'est le passé, voilà, ça c'est... Alors, la confession. La confession, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je le prends du point de vue du pénitent, comme j'ai fait jusque maintenant. J'ai pris la question de celui qui a commis le mal. Eh bien, la question du pénitent, donc de celui qui va se confesser. Est-ce que la confession, à niveau, au niveau de la grâce, au niveau théologique, de théologie des sacrements, va nous aider à dépasser ce mal, à entrer dans le pardon, d'abord en le recevant et puis en le propageant, je dirais. Hein. Donc je prends le point de vue de celui qui se confesse. Et je dirais que je vais opposer un peu deux visions, hein, celle de la grande lessive, hein, où on met tout à zéro et on recommence, si possible pas la même chose, mais enfin justement, hein, quand on soi-disant on fait la grande lessive et qu'on recommence, c'est peut-être pas assez historique, je dirais, comme acte. Hein. Quand on considère la confession comme un acte ponctuel, c'est un acte ponctuel. Mais c'est, je crois, c'est ça que je voudrais dire, un acte qui doit s'inscrire dans une dimension chronologique et dans une dimension systémique. Bien sûr, c'est un acte ponctuel, ici, avec un prêtre que je connais ou que je ne connais pas. Bon, mais ce prêtre c'est plus que ce prêtre, c'est toute la communauté, c'est Dieu, c'est tous ceux à qui j'ai fait le mal qui est représenté dans cette personne. Ce n'est pas un no man's land, c'est au contraire, je dirais, comme le concentré de toutes les relations que j'ai vécues. Il doit y avoir une relation entre cette confession-ci et toutes les autres que j'ai faites auparavant, qui se succèdent dans ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut se confesser chaque fois tous ses péchés, hein, mais il faut qu'il y ait une continuité, que ce soit une marche vers plus de lumière. Et une marche vers plus de personnes que j'ai offensées et que je veux retrouver dans le sacrement. Pas la confession ponctuelle, hein, isolée, dans l'histoire, à un moment donné, mais vraiment une qui s'inscrit dans une évolution spirituelle, mais aussi peut-être intellectuelle et psychologique. Se confesser, j'ai indiqué là, c'est marcher dans la lumière, fuir l'auto-mensonge. Fuir l'auto-mensonge. Il y a une partie là de intellectuelle aussi, hein, je dirais de faire la vérité sur soi. C'est chercher à marcher de plus en plus dans la lumière, à quitter de plus en plus les ténèbres. Les ténèbres qui sont là au fond de ma conscience morale, au fond de mon psychisme, il y a des ténèbres. Au fond du monde de pécheurs auquel je contribue et dans lequel je baigne, oui. Eh bien, marcher de plus en plus vers la lumière. Faire la vérité, pas la vérité avec un grand V qui se trouve, je ne sais dans quel ciel immobile, hein, mais une vérité que l'on fait lorsqu'on est accompagné de la grâce et qu'on marche vers Dieu. Faire de plus en plus la vérité sur moi-même, sur qui je suis en moi-même, mais aussi pour Dieu et pour les autres. Qui suis-je véritablement? Moi qui ai fait ceci, cela, moi qui ai tel idéal, hein, de moi-même, qui suis-je vraiment, sans me mentir? C'est parfois facile de se mentir, c'est parfois très difficile de ne pas se mentir, hein. Ça demande un effort de lucidité et demander à Dieu de libérer mes capacités d'amour, pas seulement de sortir du mal que j'ai fait, mais libérer mes capacités d'amour vis-à-vis de ceux que j'ai blessés principalement. Sortir donc du mensonge et de l'auto-mensonge en réfléchissant comme il faut, d'une manière théorique et pratique, avec mon intelligence et ma volonté sur qui je suis devant moi-même, devant les autres, devant Dieu, sans phare, sans faux fuyant, dans une continuité, hein, avec le passé et bien sûr dans une espérance, hein, du futur, en assumant la responsabilité de ce que j'ai fait, en sentant de plus en plus, de mieux en mieux, par empathie, combien j'ai pu blesser l'autre, alors même que je prétendais l'aimer, parfois. Si c'est simplement un acte ponctuel, hein, une ardoise qu'on efface, et puis on est de nouveau devant une page blanche, etc., on risque de recommencer, avec la même culpabilité, avec l'idéalisation d'un truc où il n'y aura jamais rien de mal, hein, etc. Mais évidemment, à la première faute qui vient, eh ben, on se dit, bah, tout compte fait, tant pis, voilà. Non, il faut accepter, je dirais, l'histoire. Non pas une histoire qui deviendrait parfaite, mais une histoire qui deviendrait de plus en plus proche de Dieu, des autres et de moi-même. Une confession qui m'aide à chaque fois à nouer davantage tous les fils de ma personnalité, tous les fils de mon histoire, tous les fils de mes relations. Alors, on a parfois objecté contre la confession, contre la religion en général, hein, que ah ben c'est le tribunal du confessionnal, ça c'est quand même un très bon moyen pour exploiter le surmoi et tenir les gens dans une espèce de petite peur, du grand inquisiteur, etc. Bon, donc la religion comme culpabilisatrice, hein, et comme manipulatrice. D'abord, je dirais que le psychisme n'a pas attendu la religion pour inventer la culpabilité. Hein. Le psychisme invente ça tout seul. Hein. Il n'y a pas besoin de l'évangile, il n'y a pas besoin de la morale pour que le psychisme se sente lui-même dans ses fonctionnements et dysfonctionnements, et dans ses tensions, se sente concerné par le bien et le mal. Pourquoi ? Parce que le bien fait du bien et le mal fait du mal, c'est tout quoi. C'est tellement clair, le psychisme le sait. Évidemment, il le sait en étant un peu embrouillé, en étant un peu confus, mais il le sait. Et donc, moi je pense que la culpabilité s'enracine profondément dans le psychisme, dans l'éducation, dans les rapports qu'on a eus depuis toujours avec tous ceux qui nous entourent. Et qu'un excès de culpabilité, aussi bien qu'une absence de culpabilité, sont pathologiques. On a dit, ah non, non, la religion ça suffit, on va supprimer la religion, comme ça on supprimera la culpabilité. Eh bien, l'excès de culpabilité est pathologique, mais l'absence de culpabilité est tout aussi pathologique, parfois même plus grave. Donc voilà, dès le psychisme, il y a quelque chose là que nous devons apprendre à gérer avec notre intelligence et aussi, bien sûr, avec notre esprit, notre foi. Et je crois que c'est un chemin qui finalement eh bien, nous pacifie, nous met dans la patience avec nous-mêmes, dans la miséricorde avec nous-mêmes, non pas pour être tolérant par rapport aux fautes qui se répètent, hein, et que la confession est un travail psychique, rationnel et spirituel, surnaturel bien sûr, mais il faut oublier aucune de ces dimensions. Et je crois que le vrai cheminement à travers la confession nous fait entrer dans un combat spirituel, mais qui est pacifique. Ça ne veut pas dire qu'il est facile, mais nous savons que nous avons à nous battre, et nous savons finalement que nous pouvons gagner, pas toujours, mais enfin nous pouvons gagner avec le Christ. Et ce que nous gagnons, c'est bien plus que ce que nous croyons, ce n'est pas une image de nous-mêmes, c'est plus que ça. Voilà, alors je vais lire un tout petit peu cette prière de Jean de la Croix pour terminer. Vous pourrez la relire à votre aise. Seigneur Dieu, mon bien-aimé, si le souvenir de mes péchés t'empêche de m'accorder la grâce que je sollicite, accomplis ta volonté, car c'est là ce que je préfère. Et cependant, j'ose t'en supplier. Donne lieu à ta bonté, à ta miséricorde, de resplendir dans le pardon que tu m'accorderas. Si ce sont mes œuvres que tu attends pour m'accorder l'objet de ma requête, donne-les-moi toi-même, en les opérant toi-même en moi. Joins-y les peines que tu voudras bien accepter et qu'elles viennent. Que si tu n'attends pas mes œuvres, qu'attends-tu, ô mon Dieu, ô mon très aimant Seigneur, que tardes-tu ? Si ce que je te demande au nom de ton Fils est un don de grâce et de miséricorde, daigne prendre ma pauvre obole, puisque tu la désires, et donne-moi le trésor que je sollicite, puisque ta volonté est aussi de me le donner. Voilà cette insistance de Jean de la Croix qui dit oui, je suis un pécheur, donc je ne mérite rien du tout. Eh bien, Seigneur, donne-moi quand même ce que je te demande, au nom de ta miséricorde, au nom de fait. Briller ta miséricorde en me donnant ce que je te demande, même si je ne le mérite pas du tout. Mais alors, non seulement il insiste auprès de Dieu pour obtenir ce qu'il veut, mais il insiste ensuite auprès de lui-même. Et toi, mon âme, qu'attends-tu ? Il a dit ça au Seigneur, mais maintenant il se le dit à soi-même. Et toi, mon âme, qu'attends-tu ? Puisque dès maintenant tu peux aimer Dieu dans ton cœur. Les cieux sont à toi et la terre est à moi. À moi les nations, à moi les justes, à moi les pécheurs. Les anges sont à moi, la mère de Dieu est à moi, tout est à moi. Tout est à toi et entièrement pour toi. Sois fier et ne t'arrête pas aux miettes qui tombent de la table de ton Père. Sors et glorifie-toi de ta gloire, mon âme. Cache-toi en elle, réjouis-toi et tu obtiendras ce que ton cœur demande. Et puis, une toute petite citation d'un père de l'église syriaque, saint Éphrem de Nisib. Alors, comme c'est poétique, c'est difficile à comprendre à première lecture, mais je vous le lis quand même. Je suis stupéfait de voir ta miséricorde réduire au silence ta justice. Alors, il fait une comparaison. Bien que lui-même impur, l'homme est l'impur qui lui ressemble. Mais toi qui es saint, tu ne prends pas nos offenses en horreur. Par ta justice aussi, je suis stupéfait. elle n'entre pas en jugement avec ta bonté, avec ta miséricorde. Donc la miséricorde s'impose et la justice ne résiste pas. C'est deux choses étonnantes. La justice pourrait contester la façon dont ton soleil brille même sur celui qui t'irrite. C'est bien là que Jésus dit dans Matthieu 5. Voilà, je vous remercie beaucoup et après 5 minutes de pause, nous pourrons poser des questions si vous voulez.